Eva Darlan, bonjour. Donc, ce n'est pas l'actrice de cinéma, ni la comédienne de théâtre, ni même la productrice, ni même bon la réalisatrice que je rencontre, mais c'est la romancière, puisque vous venez de sortir chez Calmant les Vies, Les Bruits du Cœur, où vous allez nous conter l'histoire de Marie. Marie, on va suivre ses joies parfois, ses peines souvent, ses déceptions, ses souffrances. Et le lecteur va se retrouver impuissant à découvrir sa descente aux enfers. Elle n'a pas une vie facile quand même, votre héroïne.
Non, elle n'a pas une vie facile. Je pense qu'elle a fait les mauvais choix. Elle a été, je crois, très impressionnée par son amie qui a apparemment tout réussi dans sa vie, un beau mariage, des beaux enfants, une jolie maison, qui est pétulante en permanence et positive en permanence. Et je pense
Qui
que
s'appelle
Marie,
Camille et qui est
qui s'appelle.
sa sœur de sang, quoi. Ouais.
C'est ça. Elles se sont rencontrées dans leur toute petite enfance et elles ont passé leur vie ensemble. C'est une amitié très forte, très prenante. Et peut-être, c'est aussi un questionnement tout au long du livre, peut-être étouffante. Et qu'est-ce que l'amitié si elle n'est pas le respect absolu de l'autre et le renoncement à la mainmise sur l'autre? C'est voilà. Donc ça, c'est il y a une remise en question de cette amitié pour ensuite arriver à une nouvelle relation, on va dire peut-être équilibrée, respectueuse et enfin bref. Donc Marie, de par son enfance avec des parents mutiques et la mauvaise réalisation d'après elle de ses désirs artistiques. Marie pense que sa vie est un échec et elle cherche à travers quelqu'un d'autre à se réaliser et pas à travers elle-même. Donc elle a toujours eu des amours inintéressantes, très négatives et finalement elle rencontre un homme, elle est éblouie par un homme en Camargue, par un Camarguais, elle est éblouie par ce mec. Et c'est, je pense, une erreur que de se lancer la tête la première dans une relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout et dont on a adoré l'image. Donc elle va vivre avec une image, avec l'image de ce mec, et ça va se terminer en catastrophe car j'aborde un sujet qui n'est pas abordé en général, c'est les violences dans la sexualité. Les violences sexuelles, oui, mais dans la sexualité du couple, qui est aussi un lieu de pouvoir. C'est très peu dit, très peu disséqué, mais il peut y avoir, il y a parfois une violence qui s'exerce dans la sexualité et dont les femmes ne parlent jamais. Donc ça aussi, c'est un sujet que j'aborde. Et puis, je ne sais pas si on peut raconter tous les... Bref, enfin, je ne peux pas raconter tout le livre parce que ça aborde aussi
Non, faites
l'amour,
pas, faites pas.
ça aborde le deuil, ça aborde la main tendue, ça aborde le fond de la déchéance. Marie se retrouve à la rue, mais vraiment, elle vit dans des parkings, elle vit dans des halls d'immeubles, elle se nourrit grâce à ce que lui donnent les gens qui sortent des restaurants, elle vit de reste, voilà. Elle s'est perdue, elle s'est complètement perdue à travers une tragédie où elle a tout perdu, elle a perdu sa maison, elle a perdu son argent, son compte en banque, son enfant, elle a tout perdu. Et quitte à tout perdre, elle se perd elle-même. Et il a fallu qu'elle touche le fond du fond pour arriver à en ressortir. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut arriver à vivre l'enfer pour en sortir, peut-être?
Alors, au début de votre livre, vous dites l'ennui rend créatif. Est-ce que c'est par ennui que vous êtes mise à l'écriture?
J'ai toujours écrit, non, non, j'ai toujours écrit depuis toute petite. J'ai toujours écrit, et puis professionnellement, j'ai écrit Bah, j'ai écrit au début des spectacles, des pièces de théâtre, de café-théâtre, et puis pour la radio, et puis des bouquins, et puis, enfin bon, bref, j'ai toujours écrit des scénarios, des voilà. Et là, ce livre-là, en fait, pardon, excusez-moi, ce livre-là est l'adaptation d'un scénario que j'ai écrit. C'est ça, l'histoire. Et comme je n'ai pas retrouvé le, comme je n'ai pas trouvé le bon producteur, j'ai décidé d'en faire un roman. Et bien évidemment, c'est un mal pour un bien parce que j'ai été très peinée de ne pas pouvoir le réaliser au cinéma. Il n'empêche que l'adapter en roman l'a enrichi d'une façon incroyable. Parce que passer de 80 pages à 350, forcément, il y a plus de matière, il y a plus de chair, il y a plus de personnages, il y a plus de profondeur, il y a plus de documentation aussi, parce que pour tout le passage qui se situe chez Emmaüs, je suis allée chez Emmaüs, je suis allée vivre une semaine chez eux avec eux pour voir un petit peu comment ça se passait.
Ce sont des grands moments, hein, ça.
Ben ouais, c'est, et puis c'est tellement vrai, quoi. Je veux dire que ces gens sont, c'est des gens souffrants, qui ont été souffrants et qui essayent de s'en sortir, de se reconstruire tout doucement, tranquillement, un peu en marge, vraiment, un peu en marge.
Alors Marie, elle a envie au départ de respirer. En fait, elle aurait pu être hôtesse de l'air ou s'inscrire à la Rue Blanche, non?
Alors, si vous voulez dire par là que j'ai été hôtesse de l'air très, très peu de temps, j'avais trop faim, et que j'étais rue Blanche à étudier le théâtre avec mes camarades, si vous voulez dire par là que Marie, c'est moi, non. Marie, c'est pas moi. Marie est un personnage inventé, ainsi que Camille. Alors, bien sûr, il y a de moi partout. Suis Madame Bovary, comme dirait l'autre, bien évidemment. Mais je suis même dans les hommes, même quand ils se comportent mal, ou même ceux qui sont lumineux. Mais je ne suis pas Marie. Non, je suis un peu Marie, je suis un peu Camille, je suis un peu Bob, je suis un peu Christophe. Vous savez, quand on écrit, vous, évidemment, vous le savez, il y a des moments qui sont, qu'on appelle inspiration et tout ça, et je pense que c'est un lâcher-prise de l'inconscient. Et il y a des moments de transe comme ça où on ne s'appartient plus, où on ne sait plus qui écrit, mais c'est pas soi qui écrit. Enfin, je crois que c'est en fait le plus profond de soi qui est là et qui peut enfin s'exprimer parce que vous avez lâché prise.
Quel fut votre inspiration, comme vous dites, cette muse inconnue, quand vous l'avez-vous rencontrée pour cet ouvrage, les bruits du cœur?
Le plus inconnu.
Vous parlez de l'inspiration comme étant cette muse inconnue, et je me demande quand l'avez-vous rencontrée pour cet ouvrage. Quel a été votre point de départ pour vous, notamment d'abord au niveau du spectacle que vous aviez envisagé de jouer, quoi.
Le point de départ, c'est-à-dire l'idée première.
Ouais.
L'idée première était de parler de la mort des enfants. Qui naissait, voilà. On parle pas de la mort des nouveau-nés. On n'en parle pas, et c'est pas intéressant parce que ça, c'est du domaine de oh c'est pas grave, on en fera un autre, ou oh c'est pas grave, tu l'as pas vraiment connu, oh c'est pas grave, voilà, c'est pas grave. Et en fait, c'est très très grave parce que ça accompagne toute la vie. Et que, parce que vous ne perdez pas seulement un enfant, vous perdez l'avenir de cet enfant. Parce que vous l'avez évidemment tellement porté en vous, cet avenir. Vous avez imaginé l'enfance, l'adolescence, vous avez ri des problèmes d'adolescents, etc. Vous avez partagé, vous avez vu vos amis mamans. C'est une perte de soi. C'est une perte de soi, c'est une perte d'un membre qui ne repoussera jamais. Et je crois que, bon, je vais évidemment retomber dans cette banalité, c'est que comme les hommes, pour être pour être en douleur avec ça, le vivent beaucoup moins intensément, et eux sont plutôt dans la projection de l'avenir, en disant on en fera d'autres. Mmh. Ils ne souffrent pas dans leur corps, et c'est normal, hein, c'est normal. Donc, comme nous sommes dans une société faite pour et par les hommes, eh bien, c'est quelque chose qui est complètement évacué, cette souffrance animale de la perte d'un enfant. Donc, j'ai voulu parler de ça, et pour parler de ça et aller au bout de cette idée, il fallait que cette femme arrive à se perdre à travers la perte de cet enfant, à se perdre complètement et à agir pour sa perte, à vrai dire, parce que elle aurait peut-être pu se donner les moyens de s'en sortir en allant voir des médecins, des psychologues, voilà, être soutenue. Elle a choisi de ne pas le faire, donc elle est complètement seule et abandonnée, et elle se veut abandonnée, je crois. Mmh. Et elle va jusqu'au bout de cette errance, de cet abandon, en partant et en larguant les amarres et en partant, en abandonnant tout. Donc quelque part, elle a voulu ça, elle s'est mise en position du moins de vivre ça, et ensuite elle est elle-même sa thérapeute, on va dire. Mmh. Parce qu'elle va retrouver le nid de son enfance, elle va retrouver une sorte d'utérus, elle aussi, En revivant dans cette maison de son enfance.
Du Beau Rivage.
Abandonnée, mmh. La maison abandonnée et l'enfance abandonnée. Mmh. Où elle a été très heureuse, où elle a rencontré Camille, où voilà, c'était l'enfance, c'est quand même, quand elle est heureuse, c'est le lieu de tous les paradis perdus, mmh. à jamais.
Donc, est-ce que pour vous, l'écriture, vous écrivez dans la souffrance ou au contraire, c'est un côté salvateur?
J'écris dans tout. C'est-à-dire que il faut vraiment que je sois seule pour écrire, parce que je ris à gorge déployée, je me lève, je ris, c'est trop drôle ce que je viens d'écrire, c'est à mourir de rire, ou alors c'est atroce, c'est affreux, mais je pleure, c'est terrible, voilà. Donc c'est pas beau à voir, il vaut mieux me laisser tranquille.
Alors ce que j'ai adoré dans votre ouvrage, c'est le côté visuel, très visuel, à la limite cinématographique, notamment dans la visite du marché Saint-Pierre, où on jubile tout autant que Marie et sa maman, ou même dans certaines séquences en Camargue. Est-ce que ça vous irait d'avoir une adaptation, soit cinématographique, soit télévisuelle? Est-ce que vous écrivez dans cette optique-là?
Non, pas du tout. Par contre, j'écris à partir d'un scénario. Mmh. J'ai adapté à partir d'un scénario. Donc c'est franchement visuel, pour cette raison, et aussi parce que j'ai, je crois, une écriture qui est très vivante, ou bien dans la légèreté, ou bien dans le drame, mais c'est très vivant. Je ne veux pas de pathos, je veux une relation directe et charnelle avec le lecteur. Et pour ça, il faut que je sois cash. Et en étant cash, je pense qu'on est très près du réel et du visuel. Et si ça me plairait d'en faire une adaptation, oui, bien évidemment. Je cherche un producteur, oui, bien sûr. Je ne me suis pas, pour l'instant, mise en chemin, parce que le livre débute, et avec ce putain de confinement, on ne s'en sort pas, quoi. Ah. Mais bien sûr que je fais...
La matière est là.
La matière est là, vraiment. Mmh, c'est effectivement visuel. Ouais. Et je pense que c'est riche, entre la Camargue, entre Emmaüs, entre tout ce road trip en France, voilà, je pense que c'est effectivement très visuel, oui.
Alors, vous êtes féministe, vous êtes même militante, vous avez soutenu plusieurs associations, comme notamment vous avez créé le comité de soutien à Jacqueline Sauvage, vous avez été la marraine de l'association Ni Pute Ni Soumise, mais vous dites que les combats ne sont pas terminés, loin de là, et je ne sais pas si vous avez vu que Elisabeth Guigou, ancienne garde des Sceaux, allait présider une commission sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire, non? Et notamment avec le confinement, on a vu les violences au sein des couples, c'est quand même, on est en plein, entre guillemets, dans le sujet aussi de votre ouvrage, non?
Oui, c'est catastrophique. Les gouvernements successifs n'ont rien à foutre des femmes. Les politiques, ils s'en fichent complètement. Regardez, le gouvernement actuel n'est fait que d'hommes. On demandait 1 milliard étalé sur 5 ans, selon le modèle espagnol, pour mettre les femmes à l'abri, pour faire des bracelets électroniques, pour faire un tribunal exprès pour les violences, etc. Alors, moi, j'ai rencontré le Premier ministre et ainsi que la pseudo ministre aux droits des femmes. Et il m'a été répondu que, évidemment, il n'y avait pas d'argent miracle et que, de toute façon, ils avaient d'autres rendez-vous par la suite. Et que, voilà, c'était formidable. Ils allaient sûrement travailler le sujet. Donc, ils n'ont rien fait. Voilà. Et il faut que ce soit des députés d'autres bords, que ce soit en général LR, bizarrement, qui font des propositions de projets de loi, qui arrivent à le faire voter. Et maintenant, ça y est, enfin, ah, on a droit au bracelet électronique. Si le monsieur est d'accord, c'est bien écrit. Il est d'accord. S'il n'est pas d'accord, alors bon, alors il va falloir que le juge dise que quand même, il va falloir mettre le bracelet, etc. On n'en sort pas, on n'en sort pas. Il y a un frein incroyable dans notre monde, dans notre société, dans notre pays. Quand j'étais petite, j'ai été élevée et je pensais que la France était vraiment ce dont se gargarise Macron, un pays de lumière, un pays de cristal, un pays qui accueillait, un pays qui comprenait, qui sauvait, etc. Mais maintenant, nous sommes très, 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 très loin en arrière des droits sociaux. Ce gouvernement est en train de dilapider tout ce qui était national pour le privatiser. Les femmes ne comptent pas. Un pas en avant, 3 pas en arrière. Alors oui, il y a des choses qui s'améliorent. Et puis oui, il y a des choses qui sont moins bien. Et puis non, on s'en sort pas. On est englué. On fait un pas, mais dans de la boue, dans de la colle. Et ce qui fait que les militantes, c'est fatigant d'être féministe, je vous le cache pas, c'est épuisant, parce qu'on n'y arrive pas, parce que régulièrement j'arrête, régulièrement je dis je veux plus, je peux plus, ça suffit, on n'arrive à rien, donc ça. Et puis il y a un nouveau cas qui arrive et qui dit non, non, là j'y retourne, allez j'y retourne, c'est pas possible. Il faut que les hommes soient avec nous, il faut que vous soyez avec nous, parce que vous avez le pouvoir, et si vous voulez qu'on le partage, ben, il faut que vous vous y mettiez, quoi. On est une force vive, sans nous, tout s'écroule, hein. Sans les hommes, tout ne s'écroule pas. Sans nous, sans les femmes, tout s'écroule. Donc, voilà, essayons d'avancer ensemble, de nous mettre ensemble. Enfin, je hais le patriarcat. J'ai rien contre les hommes. Ils sont aussi victimes et engloutis que nous. Mais soyons ensemble, quoi.
Alors, petite incursion dans le cinéma. Vous avez tourné avec quelques metteurs en scène qui adorent filmer les femmes, mais est-ce qu'ils aiment les femmes? Alors, un petit quiz. Claude Sautet.
Claude Sautet aimait Romy.
Alors, Lelouch.
Lelouch, je crois qu'il a, oui, il adore ses femmes.
Ah
Oui.
ouais.
Je crois.
Bien tourné. Plus compliqué, Blier, un, deux, trois soleils.
Je crois qu'il n'aime pas les femmes du tout, non. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Et je crois qu'il l'a montré très tôt, très vite. Et voilà.
Godard, soin de ta droite.
Mais Godard, moi, je l'adore. Alors, il peut faire ce qu'il veut. Il aime pas. Je crois que c'est, il est tout, Godard. Il est tout. C'est l'être le plus contradictoire que j'ai rencontré. Il est gentil et méchant. Il est intelligent et bébête. Il est généreux et rapia. Il est tout. Il est tout. Donc forcément, il aime les femmes, puis il ne doit pas les aimer. Je l'adore.
Alors, plus compliqué, De Palma, femme fatale.
Non, je crois pas qu'il aime les femmes. Non, je crois
Voilà.
pas du tout. Non, non. J'ai cru comprendre. Voilà. Je ne sais pas si l'histoire est vraie. Ce qui se disait sur le tournage de ce film, c'est que il tournait en France parce qu'il aurait pu le tourner n'importe où, ce film. Il tournait en France parce qu'il fallait qu'il reste 6 mois dans un pays pour adopter les lois du pays. Et comme ça, il donnait pas la moitié de sa fortune avec, à sa femme avec qui il était en divorce.
Alors, cerise sur le gâteau. Et là, c'est pas un réalisateur, quoique. Delon, Pinero, parole de flic.
Ah, Delon, oui, je crois qu'il aime les femmes d'une certaine façon. Enfin, moi aussi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ça a été un camarade, c'est un acteur inouï, et c'est un camarade sur le plateau, je peux vous dire. Que c'est, j'aimerais bien que tous les acteurs soient comme lui.
Hein. Ah, c'est surprenant, ça. Ouais.
Extraordinaire. Ah, il est extraordinaire, c'est un camarade, mais top niveau, quoi. Il est, quand il n'a pas à être derrière la caméra, enfin, il a à être derrière la caméra, quand la caméra est sur vous, et que vous lui parlez, et que lui est à côté de la caméra, mais hors champ, il est là, et il sera, et il restera 30 fois si nécessaire. Et on connaît des acteurs, bon là, je vais pas dire de nom, mais il y a des acteurs qui ne sont pas là, qui retournent dans leur loge, hein, et des rien du tout aussi. Hein. Donc, si Delon aime les femmes, oui, je crois que Delon aime les femmes, dans un certain cadre, qui est le sien, et... je crois que ça ne l'intéresse pas trop d'en sortir. Peut-être confond-il féminisme et haine des hommes, mais le féminisme n'est que la revendication et la volonté de l'égalité. Voilà, ce n'est pas plus que ça. C'est ça, le féminisme.
Alors, votre actu, Sinoche, ben, si on parvient à rouvrir les salles, c'est le film de Bernard Stora, Villa Caprice. Et là, vous avez quand même un duel de machos, Bruel et Nils Arestrup. Ça doit pas être évident là-dedans, trouver sa place.
Alors, Nils, j'ai pas eu de scène avec lui. Je pense, ce n'est que mon opinion, hein, qu'il aime pas les femmes du tout. Bruel les aime beaucoup. Et quelque part, Bruel est féministe. Et moi, c'est quelqu'un que j'aime bien. Voilà. Et ce qu'on lui reproche récemment, ça m'intéresse pas. J'aime beaucoup Patrick Bruel.
Pour revenir à, donc au bruit du cœur, Marie, c'est une survivante, un peu comme vous, finalement, non?
Oui, c'est vrai que je suis une survivante, si vous voulez. Je pense que vous voulez que je parle de moi, c'est ça.
Ouais, quand même. Oui,
c'est vrai, je suis une survivante à une éducation massacrée, une enfance massacrée, forcément une vie de femme...
Massacré aussi. Ouais.
Oui, vraiment. Ah. Oui, vraiment.
Vous croyez encore à l'amour?
Ben, l'amour est un appel à la reproduction. C'est tout. Alors, au-delà de ça, enfin, pour moi, non, je peux affirmer que je n'ai pas été aimée pour moi. J'ai été un trophée, j'ai été un pari. Mais je n'ai pas été aimée dans ma globalité et dans mon unicité. Non, je ne le crois pas. Est-ce que j'ai aimé? Oui. Est-ce que j'ai aimé des images? Peut-être. Je me suis laissée... alors, je peux dire... non, voilà. C'est tout. Si je crois en l'amour, oui, il y a des couples qui s'aiment, il y a des gens qui s'aiment et qui se respectent. C'est compliqué, c'est compliqué. Je vais dire comme dans Facebook, c'est compliqué.
Eva, un grand merci, et on rappelle donc votre bel ouvrage, donc Les Bruits du cœur, sorti chez Calmant Lévy, et je vous remercie parce que j'ai adoré, et puis surtout, je vous remercie de m'avoir fait pleurer.
Oh, comme c'est joli ce compliment, merci beaucoup. Merci, je suis heureuse de vous avoir rendu triste.
Bonne fin d'année et bonne année 21 alors.
Merci, pareil pour vous. Et bravo pour le petit sapin derrière. Très joli.
Merci.
Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bonne journée.